Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna. L'Afrique en culture.
Et aujourd'hui dans l'Afrique en culture, nous allons nous faire plaisir et nous parlerons tout d'abord cinéma avec Animalia, le premier long métrage de Sofia Alaoui qui était projeté donc dans les salles nationales. Long métrage qui révèle notamment les talents de l'actrice Oumaima Bari, de nouvelle étoile montante du cinéma marocain, après être sorti le 19 juillet 2023 en France. Et bien le mois dernier, le film est sorti enfin au Maroc. Retour sur ce succès et ce premier film réussi de Sofia Alaoui qui sera avec nous. Sinon, nous irons à la rencontre de la peintre Leïla Benhlima qui a ouvert les portes de sa nouvelle exposition baptisée joliment Orif apostrophe âme, Oriflamme, un jeu de mots très parlant et qui définit à merveille son univers qui ressuscite la mémoire et les âmes. Et nous parlerons également de Black Tea, entre l'Asie et l'Afrique. Le dernier film d'Abdelrahman Sissako, 10 ans après Timbuktu, le cinéaste revient sur cette histoire d'amour d'un vendeur de thé cantonais et d'une immigrée ivoirienne. Film sorti en salle au Maroc, dont on parlera dans quelques instants. Et place tout de suite à Sofia Alaoui, la réalisatrice derrière le film Animalia, sorti dans les salles marocaines. Un film très attendu après être sorti en France en 2023. Animalia est enfin sur les grands écrans marocains. Et ce premier long métrage de Sofia Alaoui est on ne peut plus prometteur, qui se distingue par son approche singulière, audacieuse et originale du cinéma marocain. Et au cœur de cette œuvre, nous retrouvons Oumaima Barid, une jeune femme également très prometteuse. On écoute d'ailleurs sans plus tarder Sofia Alaoui qui nous parle de Animalia, un film qui échappe à toute étiquette.
Animalia, c'est l'histoire de Ito, qui est une jeune femme d'origine berbère, très modeste, qui va être qui est enceinte, enfin qui en tout cas a été propulsée dans cette nouvelle bourgeoisie auquel appartient son mari, et elle attend chez sa belle-famille un enfant, donc elle est très enceinte, mais on sent qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise dans cet environnement-là, très conservateur, très tourné vers l'argent, vers la réussite. Ils sont vraiment dans une bulle, ils habitent dans une énorme maison face à un lac, ils vivent dans leur propre bulle. Et Ito va profiter d'un moment où la famille va partir pour être seule dans la maison et vraiment pouvoir être qui elle est, parce qu'en fait finalement elle n'est jamais qui elle est, elle est toujours ce qu'elle doit être en tant que belle-fille idéale, en tant que femme. Donc elle se cache derrière une espèce de masque, et donc elle va profiter de ce moment un petit peu où elle sera toute seule dans la maison pour être vraiment faire ce qu'elle veut. Sauf que à ce moment-là, les routes vont être bloquées. État d'urgence au Maroc, mais pas seulement au Maroc, dans le monde entier. La belle famille et Amine ne pourront pas revenir chez eux parce que il s'est passé quelque chose dont on ignore encore. On ignore ce que c'est, mais en tout cas, Ito va se retrouver toute seule dans cette maison-là et va devoir retrouver refuge chez Amine, qui est à quelques heures de route. Et durant tout son périple, il y aura des choses surnaturelles qui vont se passer. Les animaux vont commencer à avoir un comportement étrange, les oiseaux, et jusqu'aux humains qui, à leur tour, vont avoir un comportement étrange.
Et voilà, tout à l'heure, on discutait et tu as dit que tu pensais déjà à un deuxième long métrage, bien sûr sans dévoiler quoi que ce soit. Où est-ce que tu en es dans ce processus? Est-ce que tu es déjà passé par la case scénario? C'est encore vraiment qu'une idée.
C'est un film qui se situe à Tarfaya, dans le sud du Maroc. Et c'est un drame éco-apocalyptique, comme je dis. Je suis de plus en plus sensible aussi voilà, à nos environnements. Là, moi, j'habite à Almenzé, c'est à 1 heure du centre-ville de Rabat. Et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on vit comme ça, dans une extrême canicule. Et je suis très sensible, voilà, à ces changements climatiques. Et donc, j'ai envie d'intégrer une histoire dans un contexte écologique vraiment à la lisière de l'apocalypse.
Et on a hâte également, eh bien, de découvrir ce nouveau bébé. Merci d'avoir été avec nous, Sophia Alaoui. C'est un plaisir de te recevoir.
Merci à vous. Merci.
Merci.
Merci, Sophia Alaoui, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, juste pour le plaisir, je vous propose d'écouter un petit extrait de l'abondance.
Et toi, tu sais qu'on va être riche. Tu te rends compte ou pas?
Oui.
On va pouvoir construire notre maison.
Ça, c'est bien. تنتكو دي كريانا في الله كريانا من تيني ربي
افتح مغيانا
ولا يني وردت تيني
ما نقدروش نجيهم لارمي بلوك لي روت فير لو لاك ما نو ليس با ريبارتير جو سي با سكي سي باس جو في ابلي لو فوازان جو في لي دوماندي دو تا مير ريبكا.
Et après avoir parlé cinéma dans l'Afrique en culture, bien, nous allons toujours parler cinéma avec une autre sortie, cette fois-ci Black Tea, le dernier film de Abdelrahman Sissako, 10 ans après Timbuktu. Le cinéaste, eh bien, revient avec cette histoire d'amour, celle d'un vendeur de thé cantonné d'une immigrée ivoirienne. Alors, le scénario est très simple. Aya, une jeune ivoirienne d'une trentaine d'années, dit non le jour de son mariage à la stupéfaction générale. Après avoir émigré en Asie, elle travaille dans une boutique d'exportation de thé avec Kai, un Chinois de 45 ans. Aya et Kai tombent amoureux, mais leur liaison survivra-t-elle au tumulte de leur passé, aux préjugés des autres? On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Hé cha, dans mon Dongfang, yo jiao zuo ping cha. On me yi bei cha, ke yong san kou lai he. Yi ping zai jing, jing zhi de shi huan jing. Er ping zai wei, san ping zai qing, zhi de shi qing gan.
10 ans après le succès du film multi-césarisé Timbuktu, le réalisateur Abdelrahman Sissako est de retour avec Black Tea, sorti dernièrement dans les salles marocaines. Un film qui raconte donc l'histoire d'Aya, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années à peine, jouée par Nina Mello, et qui, le jour de son mariage, va finalement refuser de se marier et décide de partir en Chine. Elle va y travailler dans une boutique d'export de thé avec Aya, un Chinois de 45 ans. Ils vont alors tomber amoureux l'un de l'autre. D'ailleurs, le réalisateur dira « Le monde n'est que rencontre, il n'a été que ça, sauf qu'on ne voit pas un monde nouveau qui s'est créé vraiment entre l'Afrique et l'Asie, et c'est le temps de l'Afrique et de l'Asie, et je pense que c'est important que le cinéma en parle. » Voilà en tout cas ce qu'estime le réalisateur, qui explique par ailleurs que la force de son personnage, Aya, réside dans sa liberté de partir et de rencontrer l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la peur de l'autre, et quand Aya va en Chine, elle n'a pas peur d'y aller. Kai aussi n'a pas peur d'accueillir cette jeune fille, de la connaître et de rester ouvert. Un film donc à voir d'urgence et qui est en salle au moment même où je vous parle, au Maroc. Et après avoir longuement parlé cinéma, tout de suite nous allons parler peinture avec Leïla Benhlima, qui donne la parole à la mémoire et aux âmes. Après le succès d'Oriflamme Dakar, Leïla Benhlima revient avec Oriflamme Tanger cette fois-ci, une nouvelle série d'œuvres exposées au cœur de la galerie Mohamed Drissi à Tanger, cette bâtisse historique qui est l'ancienne résidence du consulat général britannique, un lieu pétri par les mémoires, la mémoire. Et il faut dire que Leïla Benhlima, eh bien, est une experte en la matière, toujours et bien sûr le seuil entre le présent et le passé, le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient. Elle nous régale avec cette nouvelle exposition baptisée Oriflamme, avec âme donc en aparté, un jeu de mots très parlant. On écoute tout de suite Leïla Benhlima.
L'Oriflamme déjà est un titre, clin d'œil déjà à d'abord Oriflamme, qui est les drapeaux qu'on avait dans le temps lors des guerres. Les guerres, on en connaît maintenant, mais c'est la guerre intérieure qu'on peut vivre, la guerre contre les événements personnels. Et puis, c'est un jeu de mots entre l'oriflamme et l'âme, parce que mon travail est très spirituel. C'est une introspection et une discussion avec mon âme, avec l'âme des ancêtres. Donc voilà, Oriflamme, Tanger, a commencé le 7 novembre. Et avant Oriflamme Tanger, il y avait Oriflamme Dakar qui a eu lieu en octobre. Et pour moi, ça sera, j'espère, un début de plusieurs Oriflammes qui vont surtout voyager en Afrique. C'est un vœu qui m'est très cher.
Et voilà, j'allais en venir pour Oriflamme Dakar. Quelles ont été vos impressions? Comment vous avez vécu cet événement, mais également le public là aujourd'hui à Tanger? C'est quoi votre sentiment par rapport à cet événement, mais également à l'événement qui est déjà passé?
Eh ben, le public a été très encourageant. Il a eu le temps de poser un regard où la réflexion était profonde. J'ai été accompagnée par mon commissaire d'exposition, Leïla Belhaj, qui est critique d'art et philosophe d'art, et qui m'a aidée à présenter mon travail, à présenter une vision approfondie de cette approche mythique que j'ai de l'inconscient. Le public a été très réceptif, très intrigué au départ par un monde où l'homme côtoie l'animal, où la douceur côtoie la violence, où le rêve est présent, où la couleur est aussi très forte, faisant référence à nos origines africaines et créant une perche, une discussion entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne.
Et Leïla, j'aimerais beaucoup connaître eh bien, la genèse de cette exposition, comment l'idée est née en vous, et puis voilà ce travail continuel sur l'inconscient, sa place en nous, mais aussi comment dialoguer avec lui de manière justement inconsciente chaque jour de notre vie. Donc comment vous est venue l'idée de cette exposition et combien de temps elle vous a demandé?
C'est un travail qui a été très long, puisqu'il a commencé pratiquement en 2020. Et évidemment, comme tous les artistes, l'inspiration vient du cheminement que nous avons en tant que personnes. Et les événements mondiaux, les situations familiales difficiles ont fait basculer ma vision de la vie en général, ma vision de l'humanité. Et j'avais besoin d'exercer mon art comme une thérapie. Donc, c'est au fait un art-thérapie. Et chaque jour, je prends le temps de déposer mes rêves, de déposer mes espoirs, mes peurs, mes déceptions. Et heureusement, parce que ce travail me permet de garder une approche résiliente d'événements qui me sont très douloureux, et aussi d'en faire un tournage positif, parce que ça me permet de voyager dans cette ancestralité que nous avons tous. Et il m'arrive parfois, et souvent je dirais même, d'interpréter mon travail une fois fini, parce que je le commence dans une liberté totale, et une fois l'œuvre finie, elle me raconte elle-même une histoire, soit de mon passé, soit de mon futur, soit de mon présent. C'est assez spécial, franchement spécial. Et je pense que je n'aurais pas pu avoir cette approche libre d'expression si je n'avais pas un commissaire d'exposition qui me suivait, comme Leïla Belhaj, et un grand peintre sénégalais, Monsieur Zoulumbey, que je salue et que je remercie d'avoir été toujours présent et bienveillant dans sa lecture de mes œuvres.
Et donc, on sera au rendez-vous pour bien admirer vos toiles, cette très belle exposition, très prometteuse. Donc, Oriflamme, en plein cœur de Tanger, ça a ouvert le 7 novembre. Donc, vous avez tout le mois de novembre pour aller à la rencontre de l'inconscient, de l'univers de Leïla Benhalima. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.
Merci, Amna, pour votre support aux artistes et votre écoute. Et vos encouragements constants. Merci à Média d'être là pour nous, pour l'Afrique.
Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, impossible de ne pas parler littérature avec La liberté est une île lointaine, signé Eleanor Scherer. La liberté est une île lointaine est un récit sur la quête d'une mère caribéenne pour retrouver ses enfants perdus pendant l'esclavage. Pour Rachel, héroïne du roman, la proclamation en 1834 de l'émancipation des esclaves dans les colonies britanniques est le début d'un long voyage, d'un long périple humain qui la conduira à travers les champs de canne à sucre de la Barbade en passant par la Guyane britannique ou encore les plantations sucrières de Trinidad. La liberté est une île lointaine et le premier roman de Eleanor Scherer, un roman désigné par la critique comme étant épique et poignant puisque la jeune femme britannique renoue un peu avec ses origines métisses. Dans les années 50, ses grands-parents maternels avaient quitté la Caraïbe pour venir s'installer au Royaume-Uni. Il faisait partie de ce que les historiens appellent, je cite, la Windrush Generation, et d'après le nom du paquebot tout simplement dans lequel ce premier groupe d'immigrants caribéens ont voyagé pour venir travailler en Angleterre. Et c'était l'un d'ailleurs des plus grands mouvements de population que le Royaume-Uni ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que Eleanor Scherer a grandi en chérissant son héritage caribéen. À 16 ans, elle va voir avec sa mère une exposition sur l'abolition de l'esclavage dans les îles caribéennes. Et c'est justement en regardant cette exposition qu'elle découvre que dans les années qui ont suivi la fin de l'esclavage, plusieurs femmes, plusieurs mères s'étaient lancées dans la recherche de leurs enfants, revendus par leur maître. Et elle dira « Cette histoire est restée longtemps gravée en moi comme symbole de la résistance à l'esclavage. » Des années plus tard, naîtra ce roman poignant qui vient des tripes. La liberté est une île lointaine d'Eleanor Scherer, premier roman très réussi donc de l'écrivaine. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité et de votre écoute. N'oubliez pas non plus que l'Afrique en culture, c'est toujours à découvrir en avant-première sur Média Podcast. Et on se quitte en beauté, en musique, pour être précise, avec Emiliana Rirntia Deron qui nous régale. Question de se quitter en beauté. Merci d'avoir été avec nous et surtout très bonne suite des programmes. Toujours à l'écoute de Média.
Je pense à toi même quand je me sens solo. Des fois je me demande même si c'est de la magie ou moi qui deviens trop. Tu me connais, je parle pas, ouais j'agis. Samedi je viens voir ton père et la famille. Que je ne mine ma vie en ta présence, non. Fuck.